RCF.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Neufeudronnés, Chemin de pensée, une émission consacrée à la découverte de la philosophie. Et pour cette émission de format spécial, nous vous proposons la troisième partie de la conférence de Daniel Moise, intitulée « Tous pris dans le phénomène du nihilisme ». Cette conférence est disponible sur le site philosophie.tv et nous avons diffusé dans l'émission Les Neufeudronnés les deux premières parties de cette conférence. La première partie est un volet plus historique qui rappelle l'histoire du fanatisme religieux et son incarnation sous la forme du terrorisme et ce que Daniel Moise appelle l'advenu du terrorisme. Puis, dans la deuxième partie, en fait, on dépasse le volet historique pour aborder ce qui est plus général que le terrorisme et qu'on peut appeler le phénomène du nihilisme. Et Daniel Moise nous propose d'analyser ce phénomène à travers la pensée de Nietzsche et notamment la coupure entre le monde vrai et le monde sensible, ou le monde intelligible et le monde sensible, ou comme elle le dit elle-même, le monde de la caverne, celui des ombres, et le monde vrai. Et il y a toute une réflexion de Nietzsche sur les passions, la domination des passions. Est-ce que c'est une chose nécessaire, souhaitable, ou est-ce qu'au contraire, elle n'amène pas en elle-même une forme de nihilisme? Dans la troisième partie que nous vous proposons maintenant, la réflexion se poursuit sur le plan philosophique, et notamment avec la pensée de Heidegger. Alors, Nietzsche pense qu'il va sortir du nihilisme, or Heidegger remet en fait la pensée de Nietzsche dans l'histoire de la pensée occidentale et donc de celle du nihilisme, et Heidegger convoque le principe de raison, qui est un principe mis à jour par Leibniz, et tout le propos de Daniel Moise va être d'expliquer comment ce principe de raison a quelque chose à voir avec la spiritualité et le divin. Or, le principe de raison, apparemment, c'est quelque chose qui vient du bon sens, puisqu'il s'agit de dire que toute chose a une raison ou une cause. Bon, il y a une différence entre la notion de cause et de raison, mais on ne va pas y rentrer ici. Et la réflexion de Daniel Moise commence par un texte de Pierre Jacéam, issu d'un livre qui s'appelle « Monde déracinement, présence des dieux ». Et Daniel Moise nous parle de la rencontre entre Dieu, ce Dieu qui est le Dieu de la Bible, et la métaphysique, et notamment avec la traduction de la Bible des Septante. Et ça, ça va être le point de départ d'une réflexion sur notre monde moderne, qui est le monde de la technique. Alors, les auditeurs doivent tendre l'oreille, puisque ça va être une partie très riche, où vont être convoqués des mystiques tels Angelus Silesius, des poètes comme Goethe, Rilke. Et puis, on va essayer de voir comment la philosophie peut nous aider à penser notre temps, et notamment le phénomène de la violence, du fanatisme religieux, du terrorisme, mais quelque chose de plus profond qui s'appelle le nihilisme. Bonne écoute, et puis nous nous retrouverons avec les neveux de René, peut-être sous la forme, on continuera à découvrir des auteurs avec des conférences.
Le théisme devient la justification ultime, le principe de stabilisation ultime, il nous faut le premier moteur, et ça y est, on a enfin stabilisé l'ensemble de l'étang, et Dieu devient l'instrument de la domination de l'étang. Quel est le problème avec ça? Donc ça, c'est une véritable perversion de la spiritualité, cette difficulté que nous aurions à penser le divin dans un horizon autre que la métaphysique. Bien sûr, dans les traditions spirituelles qui ont marqué l'Occident et qui ont marqué le monde, il faudrait chercher quelles sont les dimensions de la spiritualité qui échappent à cette capture de Dieu par la métaphysique, à cette capture, à cette utilisation du sens du divin comme instrument ultime de domination, si je puis dire. Alors, ce qui est très intéressant dans l'analyse que Heidegger fait du principe de raison, c'est qu'il en montre les conséquences ultimes. Et les conséquences ultimes du principe de raison, c'est pas du tout d'abord le fanatisme religieux, c'est pas du tout la perversion du sens du divin, pardon, va être le fanatisme du religieux. C'est que le principe de raison va être l'origine de l'arraisonnement de l'ensemble de l'étang, Par quels moyens ? Par principalement la technique. Et par exemple dans le principe de raison, on voit très bien comment l'énergie nucléaire est ce dont on prétend s'emparer, hein, à des fins de domination et évidemment potentiellement aussi de dévastation, hein, de l'étang, hein, de l'ensemble des choses. Évidemment, qu'est-ce que viennent faire ici les fanatiques religieux ? Eh bien, ils peuvent tout à fait, alors à un double titre, être pris dans cette déformation du sens de la spiritualité et du divin. D'abord parce que, évidemment, vouloir soumettre quiconque à ses propres convictions, c'est une forme d'arraisonnement. Vous voyez, être dans un horizon de sens où la spiritualité signifie soumettre tout être qui existe à ce que l'on estime être vrai ou juste, c'est évidemment une perversion foncière de la spiritualité, et c'est bien être dans l'horizon d'une volonté d'arraisonner toute chose. C'est très très impressionnant ça, de voir comment on veut essayer d'arraisonner les gens en les soumettant finalement à la raison. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose évidente, c'est que bien entendu, si la domination de l'étang à travers le principe de raison est en même temps parallèle à la menace de la dévastation des choses, c'est ce que montre Heidegger dans son livre sur le principe de raison, il se trouve qu'il y a malheureusement n'importe quelle personne violente qui essaye de s'emparer du dispositif technique qui est issu de l'histoire de l'Occident dominé par le principe de raison peut aboutir évidemment à des catastrophes sanglantes. Et vous voyez donc que bien sûr c'est dans cette histoire que s'inscrit l'advenu du terrorisme islamiste, qui non seulement a des précédents historiques extrêmement nombreux, hein, mais qui, de plus, s'inscrit dans une histoire de la spiritualité. Et évidemment, il faudrait aller voir dans les textes de l'islam, qu'est-ce qui permet d'échapper à cela, comme il faudrait aller voir dans les textes du christianisme, qu'est-ce qui permet d'échapper à cette vision de la spiritualité, c'est-à-dire d'une spiritualité vécue comme domination des choses, d'une spiritualité vécue aussi comme ce qui nous projette dans un au-delà, dans un ailleurs. Et on voit bien que dans le fanatisme religieux, qu'il soit islamiste ou autre, évidemment, les deux traits sont là. Volonté de domination, volonté de soumettre, volonté d'arraisonner. Et puis évidemment, projection de la vérité dans un monde vrai, pour reprendre l'expression de Nietzsche. Donc, on voit très très bien que le phénomène du terrorisme est tributaire de cette double perversion de la spiritualité. Évidemment, à partir de là, on peut essayer de se demander quels pourraient être les antidotes. Parmi les antidotes, je viens d'en donner un, et ce serait de se plonger dans les textes pour voir ce qui échappe, ce qui sauve ces traditions spirituelles de la déchirure entre sensible et intelligible, et de la spiritualité vécue comme ce qui nous sécurise absolument, ce qui nous donne la raison ultime des choses, enfin bref, et qui tombe en gros sous le principe de raison. Il faudrait aller voir cela. J'entendais récemment une très intéressante conférence du théologien Bertrand Vergely, qui faisait un très joli commentaire, hein, de la parole de saint Paul, qui dit que le corps est le temple de l'esprit. Et c'était très très intéressant, parce que ça aboutissait non pas à une condamnation du corps, non pas à une condamnation des passions, comme on a vu tout à l'heure dénoncé par Nietzsche, mais tout au contraire, cela aboutissait à quelque chose qui allait dans le sens de la reconnaissance de la magnificence du corps. Hein, pourquoi le corps est le temple de l'esprit dans la parole de saint Paul, si j'ai bien compris Vergely? C'est parce que le temple, c'est ce qui fait l'union entre la terre et le ciel, et quelle est qu'est-ce qui fait l'union entre la terre et le ciel pour un être humain, c'est son corps. Vous voyez, donc il y a évidemment des ressources. Je suis en train de lire un livre que j'ai apporté là d'ailleurs, même si je voulais pas vous en parler, mais ça me vient comme ça, de Farid Oudinattar, hein, La conférence des oiseaux. Alors, ce sont des oiseaux hein, qui successivement prennent la parole. Hein. À un moment, Attar dit « Sur l'absence de tout repose toute chose ». Alors là, c'est pas du tout métaphysique. Sur l'absence de tout, hein, comme si l'ensemble de ce qui est était suspendu. Autrement dit, c'est une façon de réinviter à penser le rien, non pas à penser la spiritualité comme une sécurisation absolue, mais à penser le rien. Voilà, donc, oui, je découvre. Hein, donc ça, c'est simplement ce que m'ont inspiré les passages qui vont dans ce sens-là. Hein, donc bien sûr, il faudrait aller voir hein, dans les spiritualités qui ont souvent été capturées par la métaphysique, comme je suis en train de essayer de le montrer en m'appuyant sur Jasserme et Heidegger. Il faudrait aller voir ce qui sauve ces spiritualités hein, de cette tendance-là. Mais qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui nous sauve du principe de raison? Qu'est-ce qui nous sauve de la déchirure entre le sensible et l'intelligible? Heidegger l'a dit. Il l'a dit d'ailleurs sans transition. Dans le principe de raison, il explique que toute notre histoire est dominée par la volonté de sécuriser, d'arraisonner les choses, et nous voyons très très bien comment Dieu, dans cette perspective-là, est l'assurance tout risque ultime. Mais ça nous perd, nous dit Heidegger. C'est ça qui est très très passionnant. Ça nous perd. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver? La rose est sans pourquoi. Je le dis de façon abrupte parce que c'est comme ça dans le texte. C'est-à-dire qu'il passe du principe de raison à l'énoncé de cette phrase de ce mystique qui est Angelus Silesius et qui dit « La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. » Voilà. C'est-à-dire que se produit un basculement. C'est-à-dire que à la volonté de justification de tout, à l'impossibilité de laisser être la chose comme elle est, qui est, il est vrai, le propre de la science. La science demande par définition pourquoi. Alors dans la conférence qui suit le cours, c'est plus à Angelus Silesius que se réfère Heidegger, c'est à Goethe. Il dit « Mais la science, il cite Goethe, la science s'efforce et lutte, chercheuse infatigable, réclamant la loi et la raison, le pourquoi et le comment. Comment, quand, où les dieux reste muet, c'est Goethe hein, qui parle. Tient-en au parce que, ne demande pas le pourquoi. Pourquoi, si j'ose dire, cette façon brutale de rompre avec le principe de raison. Hein, parce que c'est, vous voyez, c'est comme s'il y avait nécessité d'un décrochage. Hein, d'un seul coup, il faut lâcher. Hein, il est nécessaire de s'en remettre à ce qui est pourquoi. Eh bien, peut-être pour voir au cœur de ce qui est magnifique. Alors, de façon magnifique, Pierre Jasserme parle de ça. C'est un texte que j'avais lu et puis que j'ai relu en préparant cette chronique. Et ça m'est apparu de façon saisissante qu'il faisait avancer les choses de façon très, très impressionnante. Ce que dit Jasserme, je dis pourquoi la nécessité de cette rupture brutale avec cette façon d'arraisonner les choses, pourquoi cette nécessité de s'en remettre à la rose et sans pourquoi, ou à dire ce que dit Goethe, c'est-à-dire que les dieux sont absents dans l'horizon du comment et du pourquoi. Eh bien parce que forcément, cette façon de demander la raison contribue à aller ailleurs. Si je demande sans cesse pourquoi, on le sait intuitivement, tout le monde le sait. Hein, Brel disait qu'on pouvait tuer le cœur du bonheur à coup de pourquoi. On pouvait tuer le cœur du bonheur à coup de pourquoi. Hein, c'est-à-dire que quand nous demandons sans cesse pourquoi, nous sommes incapables d'accueillir la magnificence de ce qui est. Vous voyez, quelqu'un fait un geste, un beau geste pour vous, l'attitude immédiate, c'est pas de dire... Souvent, hein, si, heureusement, on n'est peut-être pas complètement perdu. C'est pas de dire merci, bien souvent, c'est de dire pourquoi tu fais ça? Incapacité de voir la beauté de ce qui est en ce qui est. Et justement, c'est ça qui est fantastique dans le texte de Jacerme, c'est qu'il se met à commenter un passage qui me laisse songeuse depuis 40 ans chez Heidegger, hein, qui a été le motif de ma thèse, je crois. C'est ce passage dans la lettre sur l'humanisme où Heidegger commente une phrase de Héraclite qui en grec s'énonce de la manière suivante, c'est « ethos anthropo daimon ». Et la manière dont on traduit cette phrase est très étrange d'habitude, on dit le caractère d'un homme est son démon, hein, parce que le mot « ethos » peut vouloir dire « caractère » ou bien « séjour ». Alors, c'est vrai que ça, pour ainsi dire, aucun sens. Le caractère de l'homme et son démon, on voit pas très bien ce que ça veut dire. Et de façon incroyable, Jacerme donne une traduction. Alors, bien sûr, il y avait la traduction de Heidegger lui-même, mais je trouve que là, il y a quelque chose de tout à fait saisissant dans la proposition que fait Jacerme. Il dit, donc, ethos, c'est séjour, anthropos, c'est l'homme, daimon, effectivement, c'est le démon, hein, mais le dieu, plutôt, le dieu. Et voilà les deux propositions de traduction que se fait chasser. Le séjour pour l'homme, le Dieu. Soit, dans le séjour de l'homme est compris le Dieu. Dans le séjour de l'homme qui a... Je commente. Hein. Dans le séjour de l'homme est compris le Dieu, dans le séjour de l'homme qui habite vraiment la terre. Dans le séjour de l'homme qui a renoncé à dire mais pourquoi, mais comment, hein, qui a accepté de se projeter au cœur du bonheur, pour reprendre la formule de Brel de tout à l'heure. Autre proposition de traduction, là où l'homme se tient dans son être, il y a le Dieu. C'est-à-dire que si nous arrivions à ne pas être... Alors le problème, c'est que c'est incroyablement difficile de tenir dans son être. Le problème, c'est que l'homme a tout le temps tendance justement à demander pourquoi et comment, à essayer de se projeter ailleurs, de se projeter vers un monde vrai, comme dirait Nietzsche. Et évidemment, si nous arrivions là, là où l'homme se tient dans son être, il y a le Dieu. Comment expliquer cela? Il se réfère encore à un passage de la lettre sur l'humanisme, Jacerme. Ce passage est très simple. Pour expliquer cette phrase de Héraclite, il parle d'Héraclite et d'un épisode concernant Héraclite. Quel est cet épisode? C'est cet épisode où Héraclite, et donc une autorité intellectuelle, on va dire, reçoit des étrangers qui le trouvent en train de tisonner un four de boulanger. Et donc, ils sont complètement consternés. Bon, Héraclite en train de tisonner un four de boulanger, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Là commence peut-être le désastre, car Héraclite leur répond magnifiquement, mais là aussi, il y a des dieux. Là aussi, il y a des dieux. Et ce que nous apprend à faire Heidegger et ce qu'essaye de redire de façon très magistrale, à mon avis, Jacerme, c'est que c'est l'apprentissage de cette splendeur au sein du banal. Le four de boulanger, c'est pas intéressant. Qui pourrait nous sauver et du principe de raison, parce que ça suppose effectivement un abandonnement où je cesse de demander pourquoi et comment, et de la tentation d'aller ailleurs. Et si l'on ne fait pas cela, nous sommes à risque. Pour finir, je vais donc vous lire un texte de Rilke qui, à mon avis, rassemble tout à fait les propos que je viens d'essayer de développer. C'est un texte dont je vous ai déjà parlé, mais dont je ne vous avais mentionné qu'une phrase. Je vous avais promis que je vous en reparlerais peut-être. Je ne croyais pas que ce serait aussi tôt, mais je pense que c'est le moment venu. C'est un texte de Requiem. Donc un Requiem, comme vous savez, c'est une messe pour les morts. Et c'est le Requiem que Rilke a écrit à ce poète qui s'est suicidé. Et vous allez voir comment la raison de ce suicide, si j'ose dire, il n'y a jamais de raison, alors là particulièrement pas, mais la façon dont ce poète a pu se projeter vers la mort, c'est ce que magnifiquement Rilke appelle la rafale de l'impatience. Vous allez voir, je vais vous lire le texte, c'est sublime. C'est incroyablement d'une profondeur, c'est absolument bouleversant. La rafale de l'impatience qui nous précipite ailleurs, qui nous fait croire que nous allons trouver ailleurs ce qui est là sous nos yeux mais que nous ne voyons pas. Je lis. Donc il parle à ce poète. Ne t'ai-je jamais vu, vraiment ? J'ai le cœur lourd de toi, comme d'un commencement trop ardu que l'on remet à plus tard. Puissais-je entreprendre de te dire, mort que tu es, toi, volontiers, toi, passionnément mort. As-tu été de ton fardeau aussi soulagé que tu entendais l'être ? Ou bien le « ne plus vivre » était-il encore bien loin de l'être mort ? Question qu'on pourrait poser, magnifique, hein, à n'importe quel suicidé. Tu t'imaginais être mieux à même de posséder, là-bas, le revoilà l'ailleurs, où nul n'attache plus de prix à la possession. Il te semblait que parvenu de l'autre côté, tu serais à l'intérieur du paysage qui toujours ici te demeurait fermé comme un tableau et que tu parviendrais de l'intérieur au sein de l'objet aimé et que tu traverserais toute chose d'un puissant et vibrant élan. Ah, puisses-tu désormais ne pas trop longtemps faire grief à ton erreur puérile de cette illusion. Puisses-tu, délivré par un flux de mélancolie et emporté à demi-conscient seulement par le mouvement autour des étoiles lointaines, trouver la joie que, fuyant d'ici, tu as projetée dans l'être mort de tes rêves. Voyez comment ça s'applique à notre situation ici. Comme elle était bien chez elle ici, celle que tu espérais, la joie grave de ton désir ardent et sévère. Les jours où, déçu par l'état de bonheur et par le malheur, tu t'enfouissais en toi-même et revenais au jour péniblement, ayant reçu quelque illumination presque brisée sous le poids de ta trouvaille obscure. Tu la portais alors et tu n'as pas su la reconnaître, elle, la joie. Tu portais dans ton sang le fardeau de ton petit rédempteur. Hein, il n'y a pas besoin d'être fanatique religieux pour porter en soi le fardeau de son petit rédempteur. Et tu finis par lui faire franchir le fleuve. Que n'as-tu attendu que le poids devienne tout à fait insupportable ? Invitation à porter la lourdeur de la vie comme si à un moment quelque chose basculait. Alors, il change brusquement et n'est si lourd que parce qu'il est si véritable. Vois-tu, peut-être cet instant allait-il venir pour toi, juste après. Peut-être était-il derrière ta porte en train d'ajuster la couronne dans ses cheveux quand tu la fis claquer. Oh, ce coup, comme il traverse l'univers, quand quelque part, tranchante, impitoyable, la rafale de l'impatience referme brutalement ce qui était ouvert. C'est magnifique. C'est tout à fait ça. Le geste de destruction, c'est ça. La rafale de l'impatience referme ce qui était ouvert. Qu'est-ce qui aurait pu le sauver ? C'est ce que dit Rilke un peu plus loin. Si seulement une femme avait posé sa main légère sur le commencement encore fragile de cette colère. Vous voyez, c'est très intéressant parce que ça montre qu'on est tous à risque de ça, on a tous été dans une colère. S'il s'était trouvé sur ta route quelqu'un d'occupé, de tout entier voué à ses occupations, une simple rencontre silencieuse, quand sans un mot, tu sortis pour accomplir ton acte. Oui, si sur ton chemin t'avais seulement mené, t'avais seulement mené devant un atelier en éveil, nous revoilà avec le four tout simple de boulanger d'Héraclite, où des hommes sont à marteler, où le jour simplement s'accomplit. S'il y avait eu dans ton regard comble, ne serait-ce qu'assez de place pour que vînt s'y peindre l'image d'un scarabée en train de peiner. Voilà, simplement un insecte, quelque chose d'aussi simple que cela, et qui est la splendeur que nous ne voyons pas. Alors, illuminé soudain, tu aurais su, d'un coup, lire l'écriture dont tu avais lentement enfoui les signes en toi depuis l'enfance. Hein, autrement dit, le sens qui nous échappe, qui nous fait le projeter, ce sens, malheureusement, malencontreusement, dans un ailleurs, qui nous fait chercher la raison ultime des choses. Elle est là. La joie est là, toute proche. Puissions-nous savoir, comme nous y invite indirectement Rilke, retenir la rafale de l'impatience qui nous précipite vers l'abîme. Je vous remercie.
Alors nous remercions Daniel Moise et Bruno Vinzal pour nous avoir permis de diffuser cette web conférence. Nous vous invitons à consulter le site philosophie.tv, alors philosophie au pluriel, .tv. Et puis nous vous invitons fortement à réécouter cette conférence capitale de Daniel Moise, ainsi que ses autres chroniques qui sont toutes passionnantes. Et en ce qui concerne le contenu philosophique, qui évidemment demande une certaine écoute et un certain travail, eh bien nous y reviendrons dans les prochains épisodes des Neveux de René, notamment à partir de septembre 2017. Merci, au revoir à toutes et à tous.